Vous êtes toujours sur Radio Zone, Ondes Femmes 93.8 et nous sommes en compagnie d'Anne de Castello. Anne de Castello, journaliste sur Espace 2 qui vient de rentrer, enfin c'était pendant la période de Noël, de 10 jours passés entre Jérusalem, Gaza, Jéricho et qui nous parle de ses rencontres qu'elle a effectuées dans ces différentes parties entre Israël et le territoire occupé avec un point de vue, un grand choix de sa part, donner la parole aux gens qui aujourd'hui défendent la construction de la paix dans cette région du monde en guerre depuis si longtemps. Anne, tout à l'heure, vous nous avez parlé de ces rencontres, justement de ces gens qui aujourd'hui veulent absolument essayer de construire la paix, que ça se fait déjà depuis un certain temps, que nous ne savons jamais cela jusqu'ici, parce que comme vous le disiez, c'est pas assez spectaculaire pour que ça fasse la une des journaux. La paix, on sait bien, ça se vend mal, c'est la guerre, ça va beaucoup mieux. Et entre autres, vous avez justement parlé des femmes qui se rencontrent, qui se parlent depuis longtemps, les femmes israéliennes, les femmes palestiniennes. Alors, oui, j'aimerais bien que vous nous en disiez plus.
Oui, je vous disais tout à l'heure, il suffit de tirer un peu les chevaux. Alors, on peut tirer les chevaux en un mot. Hein. On fait de la radio, c'est vrai que l'orthographe ne s'entend pas. Et avec donc, les milieux paix, et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on découvre tout un univers. Et là, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Renée Anne Guten, et qui est fondatrice, coordinatrice de quelque chose qui s'appelle Jérusalem Link. Jérusalem Link, depuis très longtemps, fait se rencontrer des femmes palestiniennes, des femmes israéliennes à un niveau assez élevé. Elles se sont même souvent rencontrées à Stockholm. Vous savez, c'est des femmes qui voyagent beaucoup. C'est un peu l'intelligentsia.
Certaines sont venues à Genève, d'ailleurs, voilà, dans
exactement.
Le cadre de l'ONU.
Oui. Mais bien sûr que bon, c'est l'intelligentsia. Mais par exemple, les femmes palestiniennes, ensuite, lorsqu'elles retournent chez elles, elles gèrent aussi d'autres réseaux. Donc, si vous voulez, ce message peut ensuite être diffusé beaucoup plus amplement et atteindre alors d'autres niveaux de la société. Donc c'est pas simplement un petit groupe d'intellectuels qui veulent faire la paix, puis ça reste à un niveau théorique. Hein, ça va beaucoup plus loin. Et ces femmes se rencontrent depuis fort longtemps. Je vous l'ai dit aussi avec des interruptions parce que l'histoire n'est pas toujours facile et il y a des moments de tragédie où alors les liens sont coupés. Et cette Renée Anne Guten, par elle, disons, j'ai eu l'adresse d'un tas d'autres femmes. Et j'ai rencontré, alors côté palestinien, une femme qui s'appelle Isla Arjad, qui est professeure à l'université de Birzeit, qui vit à Ramallah. Ramallah, c'est un territoire occupé. C'est une femme d'abord superbe, très belle, qui a une espèce de beauté calme. Elle a 3 enfants. Elle m'a reçue dans sa cuisine où, comme toutes les femmes de tous les pays du monde, elle était en train en même temps de faire la cuisine et puis corriger les copies et puis être sur tous les fronts comme tout le monde, voilà. Donc tout de suite, il y a c'est pour ça que la communication peut-être entre femmes est facile parce que nous, on a l'habitude de vivre comme ça, sur déjà plusieurs plans. Elle est prof à l'Uni, mais je vous dis, je ne pense pas qu'elle a les moyens de se payer une femme de ménage ou quoi. Donc, quand je suis arrivée, elle était en pleine popote. Et donc, on peut se parler tout de suite. Puis, me disait-elle, ce qui est extraordinaire entre les femmes, c'est que chez les hommes, même s'il y a une volonté de paix, de comprendre l'autre, de faire l'effort, de tendre la main vers l'autre, de vouloir cette paix, à un moment donné, l'Israélien, qui à 18 ans fait 3 ans d'armée, hein, on en a parlé en tout début d'émission, il y a cette espèce de ces 3 années là qui pèsent depuis que vous êtes tout petit, vous savez que vous allez y passer, et ensuite vous êtes réservé jusqu'à 45 ans. Donc, à un moment donné, vous êtes obligé de prendre les armes contre l'autre. Alors, cette communication, quand même, elle est entachée d'un peu de soupçon. Hein. Elle n'est pas continue, elle ne peut pas être continue parce que... disons qu'il y a un moment donné, ils vont être face à face, ils vont être ennemis, même s'ils ne le veulent pas vraiment, c'est comme ça.
Les femmes israéliennes vont aussi à l'armée.
Oui, mais c'est pas elles qui sont... Oui, elles le font. D'abord, elles ne sont pas ensuite réservistes, elles sont plutôt... Enfin, elles n'ont pas le même rôle que les hommes sur le front, absolument pas. D'ailleurs, c'est ce qui les prétérite aussi beaucoup dans la politique, puisque les hommes continuent de se voir, d'avoir des contacts entre eux jusqu'à l'âge de 45 ans, d'être... Donc, si vous voulez, toute la politique israélienne est occupée. Les postes sont occupés par des hommes. C'est bien ce que les femmes israéliennes commencent à réclamer. Par exemple, comme quelqu'un comme Yael Dayan trouve que ce pays est est un pays de machos, simplement parce que les hommes font l'armée et le font jusqu'à 45 ans. Donc vous imaginez les liens déjà en Suisse ou par
bien
exemple
sûr,
voilà,
le poids de l'armée.
Poids de l'armée. Alors là-bas, donc ils occupent aussi tous les postes. Et si vous voulez, la politique est faite par les hommes. Si elle était, je suis sûre que si elle était faite par les femmes qui doivent gérer d'autres choses, enfin, qui ont le souci beaucoup plus des enfants et tout, peut-être on arriverait à une paix un peu, ou une compréhension, ou un niveau de compréhension autre. Et c'est ce que les femmes d'un côté et de l'autre m'ont dit quand même. Avec une petite nuance, Islar Jad, c'est une femme, je crois qu'on va l'entendre d'abord, parce que son quotidien n'est pas facile.
Par exemple, hier on s'est donné un rendez-vous à Jérusalem, moi j'ai pas pu arriver. Il faut mettre une heure pour arriver, c'est tellement lent le processus de fouiller le papier. Et deuxièmement, on n'est jamais sûr qu'ils vont nous laisser passer ou pas. La distance entre Ramallah et Jérusalem, c'est moins de 17 minutes en voiture. Et alors, il faut mettre une heure pour être fouillé sur le barrage pour arriver. Et c'est très humiliant. Il y a, par exemple, 2 mois seulement, ils ont tiré une balle dans la tête d'un type qui réalisait, comme moi hier d'ailleurs, qu'il a oublié ses papiers. Donc, il est descendu de la voiture avant qu'il arrive au barrage. Il voulait rentrer. Ils l'ont vu, ils ont tiré immédiatement sur lui. Et ça s'apaise psychologiquement très lourdement sur l'individu ici. Mais les frontières, c'est autre chose. C'est une vraie enfer, en fait. Parce que pour passer les frontières, il faut fouiller tous les bagages, pièce par pièce. Il faut fouiller personnellement, c'est-à-dire se déshabiller et être fouillé. Avec une machine sur le corps, partout. Par exemple, la distance aussi entre ici et Amman, en voiture, ça prend pas 3 quarts d'heure. Maximum, c'est 1 heure. Pour passer entre ici et Amman maintenant, ça prend toute la journée. Donc, l'occupation pour nous, c'est les actes de tous les jours. Et si les actes de tous les jours ne disparaissent pas, donc pour nous l'occupation reste. Et les Israéliens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas le processus qu'on les voyait presque tous les jours dans notre vie quotidienne, qui pèse et qui pesait tout le temps très lourdement. Donc faire un accord de paix par le nom et par la pratique, ils restent et on les voit tous les jours. Ça va pas être accepté ici.
Oui, alors, Islar Jad, je crois qu'elle parle assez bien de cette humiliation. On va passer aux choses sérieuses. Là, il y a la puissance occupante, hein, comme on dit, et puis il y a les autres, il y a les Palestiniens, même si, comme je vous le disais, il y a tous ces liens un peu invisibles dont on ne parle pas assez. Peut-être que si on mettait un peu plus l'accent sur eux, ça les mettrait aussi en valeur. Mmh. Alors, elle m'a dit une chose extrêmement troublante. Elle travaille pour la paix depuis longtemps. Elle a des liens, comme je vous le disais, avec d'autres femmes israéliennes à un certain niveau, etc. Et puis elle me dit, mais peut-être c'est plus ma place maintenant de continuer à aller les voir, d'avoir des amis, d'aller boire le thé, expliquer comment je vis. Parce que maintenant, j'ai envie de leur dire, mais comment je vis ? Demandez à vos maris, demandez à vos fils, demandez à vos frères comment je vis. C'est eux qui, tous les jours, me font subir ces contrôles. On avait rendez-vous, je vous dis, à Jérusalem-Est. Pourtant, elle n'a pas pu venir. Tout d'un coup, ce jour-là, je crois qu'il y avait eu... il y a eu un attentat assez grave, justement, de Palestiniens contre 2 soldats israéliens. Et puis, bien sûr que les contrôles étaient démesurés. Et ce jour-là, elle n'a pas pu venir jusqu'à l'hôtel. Donc, dans la vie quotidienne, c'est un enfer. Islar Jad... C'est une femme qui, bien sûr, a pris conscience que probablement un État palestinien va un jour ou l'autre naître. Quel sera-t-il ? À quoi va-t-il ressembler ? Davantage aux pays arabes qui entourent, c'est-à-dire où les femmes n'ont quasiment aucun rôle, sont de plus en plus, sont de plus en plus infériorisées, enfin, sont de plus en plus bridées, ou bien plus comme les femmes israéliennes qu'elle voit vivre, avec qui elle a des liens, et qui ont tout de même un espace de liberté tout à fait autre.
Mais quand même, hein, Anne, en Palestine, et je le sais pour avoir parlé avec une ou deux femmes palestiniennes qui ont pu venir ici à Genève, un mouvement de femmes féministes, donc des organisations de femmes, existe déjà depuis fort longtemps, paraît-il, 1928, m'a-t-on dit.
Exactement, ce sont des femmes très avancées, mais... toutes me l'ont dit, elles se sont mises dans la lutte nationale. À un moment donné, surtout depuis l'intifada, toute leur énergie a été canalisée dans la lutte nationale. C'est-à-dire que c'est elles qui ont soutenu les hommes, qui les ont défendus quand ils étaient en prison, qui ont été jetées les pierres, qui ont fait les inscriptions sur les murs, qui sont montées en première ligne, parce que comme dans toutes les guerres d'indépendance presque, les femmes ont pris un rôle. Et... toutes me le disent aussi, on a un peu oublié les droits des femmes, c'est-à-dire que c'était plus notre lutte primordiale. Et on a l'impression qu'en ce moment, si on ne réagit pas, enfin me disent-elles, je dis on, eh bien on va se faire blouser. On va se faire blouser parce que peut-être Arafat devra faire des concessions aux gens du Hamas, enfin aux gens aux extrémistes à la droite. Et est-ce que ces concessions seront faites sur le dos des femmes ?
Est-ce qu'elles ont le goût amer de l'Algérie, par exemple,
Elles voient le modèle et elles n'ont pas du tout envie de ressembler à cela. Surtout des femmes comme Isla Arjad, qui vous voyez le degré de culture, de développement, de prise de conscience, etc. Donc elles sont en train de se réunir à toute vitesse, enfin d'essayer de prendre justement Arafat de vitesse. Et elles leur ont présenté un espèce de plan pour que les droits des femmes figurent dans la constitution, dans la future constitution de l'État palestinien. C'est-à-dire qu'il faut maintenant déjà jeter les bases et voir quelle est la place de cette femme palestinienne. Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Par exemple, les gens du Hamas, les gens, les extrêmes, les faucons, enfin les Palestiniens durs, voudraient que les femmes, par exemple, ne portent le voile islamique, s'habillent comme en Iran,
les tchadors, et voilà.
Bon, y a un mouvement pour cela, où veulent instaurer la polygamie. Et elle me dit, mais quelle femme palestinienne va supporter de partager son lit avec d'autres femmes ?
Alors que depuis des années, elles tiennent la maison. Quand les hommes sont en prison, etc.
Voilà, donc le problème est là. Et ce problème, c'est assez intéressant. Elles me l'ont expliqué. Et au niveau de cette femme, Isla Arjad, donc je vous dis prof d'Uni, et aussi au niveau de femmes palestiniennes beaucoup plus modestes, elles ont exactement le même sentiment. C'est-à-dire un sentiment un peu mitigé. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre l'acquis qu'on a eu parce qu'il y avait la guerre, parce qu'on a fait la guerre et qu'on a eu à ce moment-là beaucoup de... Bon, on a pris notre indépendance. Cette indépendance, est-ce qu'elles sont pas en train de la lâcher facilement ? Mais, par exemple, aussi, un problème dont on parle... Enfin, qui ne nous vient pas à l'esprit. Si on dit qu'il faut porter le costume de l'Iran, qui ne correspond pas du tout d'ailleurs à ce que... au costume des femmes palestiniennes. Ça met en péril des milliers de petits groupements de femmes qui font par exemple des broderies.
Elles ont des robes magnifiques, noires, brodées, voilà. Avec des couleurs.
Ben c'est toute une économie, ça. Mm-hmm. Si tout d'un coup le Hamas exige, dit ben voilà, parce qu'attention, à Gaza, les femmes sont toutes avec un voile sur la tête déjà.
Hein. Déjà.
Ah oui. Il n'y a pas une femme sans... Bon, elles l'enlèvent, elles le poussent, elles n'arrêtent pas de jouer avec ce voile, mais elles l'ont sur la tête. Hein. Elles ne l'ont pas là jusqu'aux yeux, etc. Mais elles l'ont sur la tête. Déjà à Gaza. Donc, c'est pour un mauvais signe. C'est mauvais signe. Et donc, il faut qu'elles sentent qu'en ce moment, il faut absolument qu'elles regroupent leurs forces. Et elles comptent, enfin pour certaines, puisque je vous ai dit, on a pris ce choix de paix, sur les femmes israéliennes pour les soutenir. Et donc, ce Jérusalem Link, donc j'ai fait allusion tout à l'heure, est en train de se structurer. C'est-à-dire qu'il y a un lieu qui va être créé à Jérusalem-Est, un autre lieu à Jérusalem-Ouest, c'est-à-dire deux bâtiments, deux endroits où ce sera Jérusalem Link, sous un même contrat, c'est-à-dire qu'elles sont presque liées à vie. Si vous voulez, si le contrat casse, ça casse les deux choses. Hein. Donc elles se sont exprès liées ensemble. Ça s'appelle Link, donc le lien. Et pour que chacune travaille sur les droits de la femme, sur leur désir, sur leurs souhaits, etc. Et que chacune travaille et qu'à un moment donné, quand les unes ont besoin des autres, elles puissent se donner un sacré coup de main juridiquement, côté législatif, enfin tout ça. Voilà. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est déjà très avancé. Ça non plus, c'est pas vraiment une information que l'on nous donne facilement.
Remarquez qu'en général, les nouvelles sur les femmes sont encore plus rares.
Oui, c'est encore plus rare.
N'importe quoi.
Mais moi, j'ai vraiment été émue de savoir que ça existait, que ça en était là, et que ces femmes, en fait, quand elles se rencontrent, à part avec ce que je viens de vous dire sur le fait qu'il y en a certaines qui maintenant n'ont plus envie de jouer ce jeu de « ah oui, je vais t'expliquer comment je vis ça ». Bon, on a donné, on passe à autre chose. Elle compte sur une espèce de solidarité au-delà des deux, en fait, de la politique dans les deux communautés.
Est-ce qu'Anne, vous pouvez nous préciser, par le biais de votre rencontre avec ce professeur à Birzad, l'université de Birzad, qui, précisons-le, a été resté fermé pendant très longtemps.
Très longtemps.
La situation des enseignants dans les territoires occupés était vraiment très difficile. Les enfants étaient privés, les étudiants de cours pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'elle réclame, justement, qu'est-ce qu'elle considère comme essentiel à mettre dans une constitution? Parce que ça, c'est intéressant. Au moment où une nouvelle constitution se forme, qu'est-ce que des femmes dans un pays arabe à forte pression musulmane peuvent bien trouver d'essentiel à figurer dans leur constitution?
Est-ce que vous avez pu en parler? Tout est essentiel.
Oui, mais hélas, elles doivent choisir
des choses importantes. Vous vous rendez compte?
C'est des lois, puis ça ne se formule pas de la même façon que les désirs et les souhaits, enfin, ou les importances.
Oui, je n'ai pas vu leur programme point par point. Je pense qu'elles elles sont en train de bûcher, enfin, de travailler sur ce programme. Et, bien sûr, il y a quand même la religion. Hein, on tient compte de l'islam. Et... donc, on va essayer d'aménager cet islam en le prenant dans sa version soft, je suppose. Mais bon, ce ne sont pas peut-être des choses qu'on réclamerait ici. Mais je crois que c'est les points essentiels parce que pour l'instant, rien n'existe. Donc, ne serait-ce que l'égalité de traitement, je ne sais pas, l'égalité de le divorce, des choses comme ça. Pour l'instant, par exemple, si des femmes... aimeraient se séparer de leur époux, j'en sais rien, qu'ils les battent. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont où? Elles vont aller se plaindre à des soldats? Elles vont se plaindre où? Donc, les Palestiniennes, hein, chez les Israéliens? Où vont-elles? Vous voyez, elles sont... Donc, il faut tout mettre en place. Donc, je crois que ce sont les choses, vraiment les droits essentiels. On en revient peut-être aux droits que nous exigions il y a déjà pas mal de... Enfin, il y a quoi? Il y a une cinquantaine d'années. En tout cas, une place aussi dans le gouvernement.
Et qui correspond en fait à un rôle qu'elles ont fait réellement assumé jusqu'à maintenant, une prise en charge de l'économie, parce que finalement, c'est les femmes, quand les hommes, pour diverses raisons, répression, guerre, etc., ne sont pas là, elles assument un rôle important,
tout à fait.
Par exemple.
Oui, oui. Et puis, par exemple, Arafat, quand il a plus ou moins constitué, enfin, il a un peu distribué ses futurs portefeuilles, là, plus ou moins, enfin, tout se sait, hein. Mais il avait oublié complètement les femmes. Elles ont dû aller le lui réclamer, elles ont dû aller ensemble dire mais on veut un ministère, des droits de la femme. Mm-hmm. Voilà, on commence par là. Je crois qu'elles veulent, en tout cas, elles veulent, je crois qu'elles regardent avec assez d'envie ce qui se passe côté israélien, même si côté israël, c'est pas parfait non plus, puisque je vous l'ai dit, à cause de l'armée, les postes politiques sont occupés par les hommes en priorité, sauf quelques femmes extrêmement virulentes, du style Yael Dayan, qui se font beaucoup entendre.
Anne, vous avez rencontré, vous venez de nous le dire comme ça en passant, des femmes qui sont plus modestes d'origine que notre professeur de... Je m'excuse, je ne répète pas son nom.
Islarjad,
voilà. Est-ce qu'elles s'expriment autrement? Est-ce qu'elles ont d'autres témoignages de leur vie qu'elles vous ont transmis quand vous les avez rencontrées qui nous donnent une image de peut-être un autre monde? Cette femme, Islarjad, parle français. C'est déjà exceptionnel. Je suppose que les autres femmes que vous avez rencontrées ne s'expriment pas forcément en français.
Oui, bien sûr. J'en ai rencontré qu'une qui parlait français. On va l'entendre d'ailleurs à Gaza. À Gaza, c'était drôle parce que j'ai rencontré beaucoup de correspondants de presse étrangers. Et puis je leur ai dit, je vais à Gaza demain. Et tout le monde m'a dit, tu vas voir Marie-Classe. Klaas, c'est K-L-A-2-S. J'ai dit non, tout le monde me l'a proposé, je sais, allez, c'est une femme fantastique, etc. Mais je ne vais pas. Oh, c'est pas possible, une femme qui parle français à Gaza, il n'y en a qu'une. Vous voyez, donc j'ai dit, j'en ai trouvé une autre parce que, bon, les correspondants, mais je pense qu'ils ont aussi leur circuit. Mm-hmm. Puis si on arrive par le circuit des femmes, on arrive, et j'en ai quand même trouvé une autre qui s'appelle Naïda Boudaka. Et comment. Oui, effectivement, il y a déjà le problème de langue, hein, puisque beaucoup ne parlent même pas l'anglais. Donc, il y a un problème de communication. Elles ont une expérience. Bref, elles sont en train de sortir d'une lutte qui est depuis 6 ans où elles n'ont qu'un objectif, quoi. C'est la guerre des pierres, c'est la survie, c'est essayer de s'organiser. Elles sont assez organisées. Il me semble qu'il y a je crois que là non plus on peut pas tellement aller en arrière. Je me demande si un recul est possible. Enfin, vous me direz, en Algérie c'est bien le cas.
Hélas,
c'est dans d'autres endroits, mais elles sont assez volontaires. Et par exemple à Gaza, elles ont mis sur pied une école pour essayer de rattrapage scolaire, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, les enfants n'ont pas pu être scolarisés pendant très très longtemps, ne le sont pas encore vraiment tout à fait, on parlera tout à l'heure de l'école, et elles ont dû créer des structures. Bon, elles sont aidées, hein. Il y a beaucoup d'organisations internationales, la Croix-Rouge, etc. À Gaza, ça pullule, hein. Il y a beaucoup de possibilités d'aide. Entre autres, j'ai rencontré aussi la coordinatrice d'enfants réfugiés du monde, de l'ERM. Et il y a des factions, c'est ça le problème malheureusement, c'est la religion qui gâte un peu tout, c'est-à-dire qu'elles sont par factions. Et là, elles étaient très 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 fières de me dire que ce centre dans lequel je me suis rendue à Gaza, eh bien pour la première fois, c'était les quatre factions, ne me demandez pas exactement quelles sont les différences entre elles, eh bien, elles se sont mises ensemble pour faire ce centre d'accueil. Et ça avait l'air d'être comme une victoire, le fait qu'elles soient mises ensemble pour faire ce centre et essayer d'avoir les gosses à problème, enfin les gosses qui à partir de 5-6 ans sont dans la rue parce qu'il n'y a pas d'autres structures et puis parce qu'il y a 10 gosses par famille et puis voilà quoi, tout le monde est dépassé par les événements et donc il y a la religion, hein, qui pèse quand même, ça on en parle comme si elle n'existait pas alors que là est tout le nœud, oui, du problème aussi.
Mais je crois qu'effectivement, hein, c'est certainement, voilà, une très importante victoire de surmonter ces différences, tout comme par exemple des femmes en Yougoslavie arrivent surmonter les différences des ethnies pour travailler toutes ensemble, et c'est quand même de nouveau pas très surprenant que ce soit les femmes qui soient capables de passer par-dessus ces importants fossés entre certaines communautés.
Mais
par moment.
Parce qu'il y a des impératifs plus immédiats. Il y a les enfants, voilà. il y a, je ne sais pas, il y a me faire à manger tous les jours, gérer une sorte de foyer quand même. Et c'est les femmes qui assument ça. Donc leurs priorités sont beaucoup plus immédiates, pragmatiques. Elles ont un sens de l'organisation qui elles ne se perdent pas dans les phrases creuses ou dans les discours abscons. Bon, il faut faire, quoi. Voilà, c'est peut-être.
Puis c'est
ça,
pas
alors,
seulement donner la vie tout court, comme voilà, parfois certaines pacifistes, mm-hmm, ultra disant, ah, les femmes sont forcément pacifistes parce qu'elles donnent la vie. C'est peut-être un peu simpliste, mais
oui,
elles mènent la vie, elles vivent tout,
oui,
court.
Voilà.
Donc il faut pas s'arrêter à tuer, mais on veut continuer, on veut construire, quoi.
Exactement.
Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit, j'ai rencontré des gens à Gaza, je crois que vous allez nous emmener à Gaza dans un petit moment, mais encore juste une petite page de musique pour découvrir d'autres sons de ce pays. Thank you. Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Nous évoquons aujourd'hui la situation entre Jérusalem, Gaza, Jéricho, les territoires occupés d'Israël. Ceci au travers des yeux d'Anne de Castello, journaliste sur Espace 2 et qui a passé un séjour de 10 jours pendant la période de Noël pour mieux rencontrer les gens qui aujourd'hui essayent de construire la paix dans cette région du monde. La musique que vous entendez, c'est à la fois des musiques palestiniennes, des voix palestiniennes, et puis c'est aussi, comme en ce moment, une musique israélienne dont on sait bien qu'elle est un grand mélange ethnique au vu de tous les pays dans lesquels ont vécu les Israéliens qui aujourd'hui se sont installés dans ce pays. La chanson que vous entendez en ce moment est d'origine yéménite.